tous. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, rendez-vous à partir de 12h55 avec Abnous Chalmani. La romancière et journaliste signe chez Grasset Éloge du Métèque, où elle explore cette figure du transfuge, cet autre qui fascine ou qui inquiète. On en parlera en plein débat en ce moment dans l'Hexagone de la nouvelle loi de la réforme sur l'immigration. Mais d'abord, Alexis Strogonoff et les ébattantes aventures de Jules, c'est lui. Boucle d'or et les sept ours nains, et ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, c'est encore lui. Mais surtout Spirou avant l'heure, Spirou avant Franquin, Spirou avant la guerre. Le journal d'un ingénu en 2008, il en est le père et lui donne aujourd'hui une suite. Spirou, l'espoir malgré tout, dont paraît le deuxième tome d'une tétralogie en cours. L'auteur et illustrateur Émile Bravo est notre invité. Bonjour. À retrouver jusqu'à midi et demi. Bonjour Émile Bravo.
La grande table. Olivia Gesbert.
Émile Bravo est donc avec nous aujourd'hui pour parler de son Spirou, qui est né un peu avant vous quand même, Spirou. Lui, il est né en 1938, quelques décennies plus tôt, sous la forme d'un périodique. Des albums qui portent son nom et ses aventures qui deviennent vraiment populaires quand ils sont repris par Franquin dans les années, à la fin des années 40, dans les années 50, cette décennie-là surtout. Ça veut dire qu'il y a eu une décennie presque manquante, celle de la guerre, celle de l'occupation, que vous avez choisi de raconter dans les yeux de Spirou, le groom, et de Fantasio. C'était une décennie oubliée qu'il fallait revisiter, réinstaller dans la vie aussi de ce personnage et dans la nôtre.
Je ne sais pas s'il faut voir ça comme ça, en fait. À mon avis, au départ, il y a quand même... Bon, il ne faut pas oublier que c'est quand même un personnage de bande dessinée, c'est une mascotte au départ. Et en fait, créé en 38, comme vous dites, et en fait, les premières aventures apparaissent les grandes aventures apparaissent en 46-47. Mais entre-temps, je pense que personne n'avait eu, en fait, enfin, l'idée, en fait, de faire ce personnage aventurier n'était pas encore très au point. Et donc, il y a eu des tâtonnements. Puis, Spirou a eu donc sa propre histoire pendant la guerre. C'est-à-dire que le magazine n'a pas pu paraître, parce qu'aussi déjà la famille Dupuis résistait contre l'occupant, enfin ne voulait pas collaborer, et puis il y avait aussi une grosse pénurie de papier, ce qui fait que ils l'ont fait vivre à travers un théâtre de marionnettes qui s'appelait le théâtre du Farfadet, et ça c'est ce qui s'est passé pendant la guerre, et moi de mon côté, quand on m'a demandé si ça m'intéressait de faire un Spirou dans le cadre d'une collection qui s'appelait au départ une aventure de Spirou et Fantasio par un auteur. On demandait vraiment un travail d'auteur. Eh bien, je me suis dit, je voulais pas toucher à l'univers de Franquin, donc à ses premières aventures qui sont parues en 46-47. Donc je me suis dit, ce qui me paraissait intéressant de raconter, c'est la construction d'un enfant. Et donc, symboliquement, j'ai repris la naissance du personnage en 38. J'ai repris cette petite mascotte et j'essaye d'expliquer, au travers de l'histoire, en fait, comment un enfant se révèle et devient un petit être humain et humaniste surtout.
Comment sa conscience se forge, comment son caractère se forge. Et aussi peut-être sa tenue vestimentaire, parce que c'est l'une des particularités, en tout cas de cette deuxième partie, de cette tétralogie sur l'espoir malgré tout, c'est que sous l'occupation, vous le rhabillez, son éternelle tenue de groom, rouge, qu'on lui connaît, avec son petit chapeau, ses dorures, il la perd dans cet épisode-là.
Oui, parce qu'il doit se fondre en fait dans la foule, parce qu'il a des soucis au début de l'occupation avec des agents de la Gestapo, une petite déconvenue, et du coup ensuite c'est trop voyant, c'est pas possible. En plus, là aussi symboliquement, il se trouve qu'il s'est mis à porter ce costume rouge. Enfin, regardez ce costume rouge, cet uniforme rouge, en hommage à sa petite amie, en fait, qui est communiste, qui aime bien, en fait, qu'il soit habillé en rouge. Donc il peut pas porter ça pendant l'occupation, et puis fatalement, en fait, il s'habille malgré lui, inconsciemment, en fait, comme ça lui était déjà arrivé dans la première histoire que j'avais fait il y a une dizaine d'années. En fait, ça le rattrape toujours. En fait, il s'habille en Tintin, en fait, voilà, parce que c'est son héros aussi en même temps, et puis c'est une façon aussi de se, comme je vous disais, de se fondre dans la foule, parce que c'est vrai que Tintin a passé ces années-là, les années d'occupation, sans problème, quoi.
Oui, et de revenir à Tintin, et peut-être à la concurrence qu'il y a pu y avoir dans le cœur des lecteurs, des fous de bande dessinée, entre ces deux mascottes, comme vous dites, hein, parce que vous dites pas mythe pour Spirou, vous dites mascotte, entre Spirou et Tintin, ils se sont jamais rencontrés, ces deux-là?
Je crois pas, Tintin. Mais encore une fois...
Ils se seraient dit quoi s'ils s'étaient rencontrés?
Bah justement, je sais pas s'ils peuvent se rencontrer, c'est pour ça que je l'ai traité de cette façon. Moi, dans mon univers, Spirou existe, et Tintin est un personnage de bande dessinée, donc ils peuvent pas se rencontrer. Ou alors si, dans la lecture de Spirou. Et c'est un petit peu ça que j'essaye de développer, quoi. Mais qu'est-ce qui se serait dit? On peut voir ça différemment. On peut voir leur rencontre à travers en fait leurs auteurs. Hergé était très admiratif de Franquin, par exemple, et je suppose que Franquin aussi. Mais moi j'ai entendu beaucoup de témoignages d'Hergé qui trouvait que Franquin est un très très grand artiste. Et c'est vrai que le dessin de Franquin, enfin à travers en fait son dessin, il donne pratiquement vie à ses personnages, quoi. Enfin, c'est tellement vivant. Donc ça fascinait Hergé apparemment. Donc ils se respectaient. Et moi je trouve que finalement cette idée en fait de les opposer, il faut pas les opposer, je pense pas. C'est pas très intéressant, je trouve, de les opposer. Faut montrer l'histoire en fait. Ce que représente Spirou, c'est vrai qu'il a une image un petit peu plus comme ça de combattant, parce qu'il est plus associé au monde un peu ouvrier, catholique ouvrier, alors que Tintin est plus associé à la droite conservatrice catholique. Donc évidemment il y a ça, on peut le voir comme ça, mais ça nous reste néanmoins des personnages pour les enfants. Il faut apprendre beaucoup de choses de ça, mais pas tout de suite, mais pas les opposer, quoi.
Non. Hergé, qui ne voulait pas que Tintin soit repris par d'autres après sa mort, qui en a fait presque un sanctuaire inviolable. Alors, c'est évidemment pas le cas avec Spirou, qui a une autre histoire, qui a un autre parcours, puisqu'il est né comme sous une version journalière, et qu'il est devenu une marque presque qui appartient à Dupuis, qui vous édite d'ailleurs encore aujourd'hui, et qui peut proposer à des auteurs différents, ça va de Franquin jusqu'à vous aujourd'hui, de reprendre ce personnage et de se l'approprier. Hein,
c'est un personnage de franchise en fait. Voilà, c'est juste comme je vous disais, c'est une mascotte qui a été payée à Orwell, qui l'a créée graphiquement, qui lui a mis son costume. Et puis après, il a fallu faire vivre en fait ce personnage. Donc rapidement, il est passé. Bon, tout le monde connaît un peu l'histoire. Orwell, JG, Franquin. Et puis c'est surtout en fait Franquin qui lui a donné, qui l'a étoffé, qui lui a créé tout son univers. Et peut-être que le souci il est là, c'est que les éditeurs ont pensé qu'après Franquin, il était possible de faire quelque chose, de continuer à faire vivre ce personnage. Et j'en suis pas certain, parce que à passer, comme je dis souvent, c'est très difficile de passer après un génie. Et on peut pas demander ça à des gens, enfin, de dire bon, faites du Franquin, ce sera toujours que du sous Franquin. Donc voilà, c'est à moins de je sais pas, de trouver un autre génie, mais encore meilleur que Franquin. Mais non, mais c'est pas possible. C'est tout un héritage, enfin tout ce qu'il a créé, c'est difficile à porter, je trouve. Donc voilà quoi.
Ou à moins de biaiser, comme vous l'avez fait d'ailleurs, en acceptant de reprendre Spirou, à moins de chercher le pas de côté, à contourner aussi l'obstacle en se réappropriant le personnage, en le rajeunissant ou en le vieillissant. C'est aussi ce qu'a fait un autre auteur, dessinateur, en reprenant Blake et Mortimer, vous voyez peut-être de qui je veux parler, autre monument de la bande dessinée franco-belge, pour donner une aventure sans suite à ces personnages, à ce duo d'amis. Écoutez.
Ça nous intéressait de les faire vieillir parce que d'un côté, on peut se les réapproprier peut-être un peu plus facilement, puisqu'on les éloigne comme ça de la série mythologique, je dirais, d'origine. Et du coup, on peut aussi se les rapprocher de nous, puisque bon, on a aussi pris un peu de l'âge. Et c'était une façon peut-être d'avoir un peu moins peur de reprendre des figures quand même qui nous impressionne encore.
Voilà, François Cuiten qui a fait vieillir Blake et Mortimer, hein, pour contourner l'obstacle et l'intimidation provoquée par l'idée de reprendre ces figures-là.
Mais je sais pas si ça doit pas être simple non plus, parce que si on fait vieillir un personnage, en fait il y a tout son passif, donc en fait on a toute sa vie en fait qu'on traîne avec le personnage. Je pense que c'est plus simple de le faire rajeunir, de faire l'avant en fait. Ben voilà, enfin en gros, si vous voulez parler de ça, en fait moi ce qui m'intéressait, c'est C'est encore une fois, c'est d'expliquer à des enfants comment un enfant qui est groom dans les années 30, c'est-à-dire, je dis souvent que c'est ça, en fait, finalement, en résumé, c'est ce qu'il y a de plus bas, c'est un des trucs les plus bas de l'échelle sociale, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré, parce que c'est un gamin, et en plus, il est en servitude, et j'expliquais souvent que, moi, je trouvais ça intéressant d'essayer de comprendre comment un groom peut devenir un aventurier, parce que c'est quand même pas le travail le plus épanouissant, et finalement, ça symbolise un petit peu la vie qu'on nous propose aujourd'hui, qu'on propose à tous les enfants, quand on dit, bon, ah bah, il faut que tu trouves un emploi. Et on se dit, mais quel sens on peut donner à tout ça? Enfin, bon, bref. Et je trouvais qu'à travers l'exemple de Spirou, il y avait une bonne leçon de vie à tirer, enfin, et à travers son humanisme, et de se dire, voilà, quoi, comment on se construit, et puis notamment devant des faits terrifiants comme la Seconde Guerre mondiale, où en fait, malheureusement, comme je crois que l'espèce humaine n'avance qu'à coup de trauma, et ben, c'était un bel exemple pour Spirou de se développer aussi son caractère au travers le trauma qui a été la Seconde Guerre mondiale.
À coup de trauma et à coup d'espoir aussi, d'où oui. Le titre de cette tétralogie, bien l'espoir sûr. Malgré tout. Comment mettre Émile Bravo de l'espoir dans la guerre quand en plus on connaît la suite, voire on connaît la fin?
Ben justement, lui, c'est peut-être sa chance, c'est que lui ne connaît pas la fin, en fait, même si ça s'est bien terminé. Enfin, c'est terminé pour nous, mais pour des millions de gens, ça s'est très mal terminé. Mais lui, ne connaissant pas la fin, il peut qu'espérer, quoi, comme on le fait tous aujourd'hui, sans se rendre compte de ce qui sera demain. Et je dis souvent ça, quoi. On verra. Peut-être qu'on sera jugé par nos enfants, nos petits-enfants, en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait à cette époque-là? C'est terrible. Enfin, bon, genre, vous êtes en train de détruire. Vous détruisiez la planète, vous en aperceviez pas. Il se passait des événements terrifiants qui nous ont emmenés vers une catastrophe. Je sais pas. Enfin, j'imagine. Mais en fait, l'idée, c'était ça, surtout. C'est en fait de se replonger honnêtement dans ces années-là, en vraiment essayant d'oublier, enfin de prendre cette distance et d'oublier en fait qu'on connaît l'issue en fait de l'histoire en fait. Et il faut vraiment se plonger dans les personnages qui eux ne savent pas quoi. Et ça c'est l'exercice qui était encore une fois je trouve intéressant.
Et comment raconter le pire aux enfants dans ce deuxième tome hein, la Belgique est occupée et on y voit toute une bande d'enfants qui entourent Spirou et notamment des enfants juifs déportés. Vous n'avez pas omis de dessiner l'étoile jaune ni ce qui va leur arriver.
Ben, comment on raconte, justement, en leur racontant ce qui s'est effectivement passé, quoi. Enfin, il faut pas, je sais pas, ça me paraît tellement évident. Il y a comme ça, en fait, qu'on arrive à se construire, c'est en sachant les choses. Il faut rien nous cacher. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, tout raconter aux enfants, enfin, tous les problèmes qu'a l'espèce humaine, leur raconter, sans filtre. Enfin, bon, bien sûr, il faut amener ça d'une certaine façon. Faut pas non plus les choquer, leur faire des cauchemars, mais quand même, il faut qu'ils sachent, quoi.
Mais vous êtes interrogé là-dessus, sur cette certaine façon pour amener ça, justement.
Bien sûr. Mais parce que je m'interroge depuis mon enfance, quoi. Et parce que, je me souviens que quand j'ai appris tout ça, quand j'ai appris le pire, j'ai pris ça frontalement et ça m'a choqué comme tous les enfants. Et je pense qu'il y a une façon d'amener ça de manière, avec un peu de pédagogie, un peu de fantaisie, surtout avec un, je sais que c'est difficile de parler de ça et d'humour, mais si, c'est notre seule arme, c'est ça, c'est de prendre un petit peu de distance. Et encore une fois, replaçons-nous, en fait. Là, on en parle avec le jugement des années. Mm-hmm. Replaçons-nous à l'époque et bon, quand je dessine un Spirou qui part dans un train de déporté avec des enfants, il est heureux parce que il sait pas où il va, c'est tout. Comme ça s'est passé pour beaucoup de gens.
Il les laisse pas tomber et il est entouré. Vous dites humour, mais c'est plus de la tendresse. Il y a quelque chose de très doux dans votre manière de raconter, de mettre en scène ces situations. Aussi dans les échanges à ce moment-là entre les enfants qui se découvrent dans ces situations-là. Pardon. Spirou, c'est un nom de guerre.
Je sais pas si c'est un nom de guerre.
Pourquoi est-ce qu'il va se surnommer comme ça? Pourquoi il garde pas son prénom?
Ben en fait, j'ai raconté une petite histoire dans l'ingénu il y a une dizaine d'années où j'explique pourquoi Spirou s'appelle Spirou parce qu'au départ dans mon esprit il s'appelle Jean-Baptiste, il s'appelle pas du tout Spirou. Et c'est juste parce que il y a un type qui le terrorise qui s'appelle Entresol qui travaille avec lui à l'hôtel en fait, mais il se trouve qu'il a le même prénom, il s'appelle Jean-Baptiste, donc il a décidé de s'appeler différemment. Donc Spirou, bon, c'est un peu compliqué. En fait, c'est son écureuil Spip qui s'appelle Spirou au départ. Donc, on peut, en fait, il prend le nom de l'écureuil Spirou parce que Spirou veut dire écureuil en wallon. Enfin, bref. Et voilà, c'est pour ça. Et puis après, je trouvais ça rigolo. Ben, voilà, il adopte ce nom quand la guerre éclate. Enfin, quelque part, c'est son nom. Enfin, et on lui dit, c'est vrai que dans la BD, on lui dit, ben, ça peut être pas mal comme nom de guerre parce que c'est pas son vrai nom, quoi. Et puis, ça veut dire écureuil. Donc, à partir de là, il y a quelque chose de très comment agile bref, on sent bien qu'un petit écureuil ça peut se débrouiller, quoi. Espiègle, voilà, c'était le mot que je cherchais.
Comme Candy, hein, c'était ça le générique.
Oui, c'est vrai.
Candy à l'époque, ouais. Parfois la même génération. Alors, il y a eu le journal d'un ingénu que vous reprenez donc en 2008. Et puis, il y a cette tétralogie qui est née il y a un ou deux ans avec la première partie sortie. C'est l'espoir malgré tout. Deuxième partie qui sort aujourd'hui. On en attend encore deux autres si le compte est bon, qui oui. devrait arriver assez vite, assez prochainement. D'ici 2020, 2021.
Oui, en fait.
Ça n'allait pas nous faire trop attendre non plus.
Ben, c'est-à-dire que c'est long. Tout est écrit déjà, enfin écrit et dessiné même en fait, parce que quand j'écris en fait, moi quand j'écris une bande dessinée, je la dessine en même temps, tout vient en même temps, le texte et les images, et donc il y a le principal, les expressions, le découpage, l'expression, les dialogues et les attitudes aussi, c'est très important. Et tout est écrit, et là en fait je suis passé au propre depuis bientôt 3 ans, et il me reste encore je crois 140 pages à dessiner, quoi. Mais c'est une même histoire, tout ça, qui a été divisé en chapitres. Je l'avais divisé en chapitres, ensuite l'éditeur a pensé que c'était bien peut-être d'en faire des albums, quoi. Et je pense qu'il avait raison.
Émile Bravo est notre invité jusqu'à midi et demi. What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I lived a lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. To help myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. You Ain't the Problem, dans l'actualité musicale, cet extrait du nouvel album de Michael Kiwanuka, album à paraître le 1er novembre.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
La sagesse est appuisée dans le cœur des enfants, peut-on lire dans l'une de vos bulles, Émile Bravo. Vous avez, vous, toujours un cœur d'enfant, quelque part, à disposition de vous, où puiser cette sagesse, comme on puise de l'eau fraîche dans un puits?
Ouais, vraiment. Je crois que je me souviens bien de mon enfance et je me souviens bien de qui j'étais et de toutes les questions que je me posais. Et que ben j'ai pas l'impression d'avoir changé. J'essaie de me cultiver, d'apprendre, de me construire aussi depuis toujours, et d'apprendre beaucoup de choses. Mais sinon, au niveau de ma sensibilité, c'est un peu la même. Je pensais qu'en grandissant, en fait, je
je comprendrais pourquoi ce monde est ainsi fait. Puis en fait, non, c'est pareil. Et personne ne le sait. Et je pense qu'il y a encore des gens qui savent encore moins. Donc c'est assez terrifiant, en fait. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un monde d'adultes, comme je dis souvent.
Ou c'est un monde d'enfants dessinés par des adultes.
Non, malheureusement, moi, je pense que être adulte, je le dis souvent, ça aussi, c'est renouer avec son enfance, en fait. Et le problème, c'est que ce qu'on voit, ce qu'on a autour de nous, ce ne sont plus des enfants, ce sont des adolescents attardés et qui, renient leur enfance en disant, ben maintenant, voilà, je suis adulte, tout va bien, alors que c'est juste une poussée de testostérone. Et voilà quoi, et c'est ça qui nous dirige. Mais il n'y a pas de. Il n'y a aucune sagesse d'adulte, c'est plus en fait un concours de testostérone qu'on voit à travers le monde, ça n'a rien d'adulte, ça. Ça va pas quoi. Donc,
qu'est-ce qu'il faudrait garder de l'enfance ? Peut-être pas forcément l'innocence, mais en tout cas une curiosité ou un.
Ben, ça dépend ce que vous appelez l'innocence, mais je pense que le simple fait de ne pas être formaté, en fait, ne pas oublier qu'en fait, il y a un truc en fait intéressant dans l'enfance, c'est chercher toujours de se méfier de ce qu'on lui raconte et essayer de garder son libre arbitre, comme je dis souvent.
Et c'est à ça que sert la bande dessinée, à ne pas entrer dans les cases ?
Ben, j'espère. En tout cas, une certaine bande dessinée peut-être, oui, effectivement. Enfin, c'est parler quoi aux enfants, leur parler de façon normale, comme je dis, normale, c'est-à-dire comme un adulte. Quoi. Enfin, genre, moi, je raconte ça souvent que quand j'étais enfant, ben, je prenais en considération que les adultes qui me parlaient normalement, pas ceux qui me... pas me traiter comme un enfant, comme un espèce d'un attardé mental, je ne sais pas, qui me parlait bêtement, et alors que moi j'avais une soif de savoir quoi, et ceux qui me parlaient normalement, qui me prenaient en considération, j'avais l'impression qu'ils me faisaient vraiment avancer quoi, même si je comprenais pas tout ce qu'ils me disaient, peu importe, c'est comme ça qu'on avance. Mais se sentir écouté et répondre à nos questions, c'est fondamental. Enfin, c'est comme ça qu'on éduque, il me semble. Mais en restant en fait dans le doute, toujours dans le doute, c'est ce doute moi qui m'a toujours plu en fait aussi. Quand on tombe sur un adulte aussi responsable, qui comprend bien qu'il n'a pas la science infuse, et ça c'est pas mal. Hein. Lui dire, c'est ce qui nous met un peu à égalité en disant un adulte qui vous dit, j'en sais rien, je sais pas. Enfin, on va regarder, on va essayer de voir ensemble. Et ça c'est bien quoi.
Sur le cheminement, voilà. Écoutez juste les mots d'un de vos camarades de jeu, Johann Sfar, Monsieur Chat du Rabbin.
Je suis un auteur jeunesse qui est allé petit à petit vers des genres plus mineurs, mais pour moi le genre majeur c'est la littérature jeunesse. On se construit quand on lit un livre dans l'enfance, ça devient une chose qu'on va relire mille fois, qui va... un adulte c'est pour la distraction qu'il ouvre un bouquin, c'est pas du tout la même chose. Il y a rien de plus grave, de plus drôle et de plus important que de travailler pour les enfants, parce que les enfants il y a encore quelque chose à en faire. Et ça fait qu'il faut y croire mille fois plus. Il y a une interview extraordinaire de Roald Dahl où il parle de ça. Il dit « Enfant, je n'aurais pas pu écrire des récits pour enfants parce que les enfants sont trop bêtes pour écrire des récits pour enfants. » Et il dit « Maintenant que je suis adulte, il faut que je me rappelle de ce qui me faisait marrer quand j'étais petit, que je sois aussi libre que ça et qu'en même temps je structure comme une grande personne. »
Et voilà. C'est pas facile d'avoir trois âges à la fois. Vous non. Suivez à peu près le même cheminement, le même processus.
Oui, je pense que c'est simplement il y a juste un passage en fait qui est délicat. Je vous dis c'est l'adolescence. Après, quand on en finit avec ça, cette réconciliation, elle est très simple. C'est le fait de ne pas, on a rien à se prouver, on n'a plus rien à se prouver quoi. Donc voilà quoi. Et comme un enfant, bon, c'est vrai qu'il peut avoir envie de prouver des choses, mais pas quand on, ça c'est déjà la préadolescence quand il est petit, ça va, il écoute, il veut savoir un petit peu d'où il sort. Moi, en tout cas, j'avais ces problèmes existentiels, donc évidemment.
Alors, vous montrez un Spirou dans cette série qui est peut-être un peu vous et nous à la fois, c'est-à-dire ni un salaud, ni un héros dans la guerre, juste une conscience, on le disait, en construction. On s'imagine que vous avez dû vous demander comment vous auriez traversé cette période, ce que vous auriez ressenti, vécu au quotidien. Et c'est aussi à travers toute cette bande dessinée, et notamment ce deuxième tome qui est à l'automne 1940, vos personnages sont à la tête d'un petit théâtre itinérant et ils vont traverser la Belgique. Comment vous avez procédé ? Est-ce que vous êtes du coup plongé dans les archives belges ou françaises où vous vivez pour retrouver les détails de cette Belgique occupée? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur les récits que vous avez pu en avoir de votre famille? Je ne sais pas s'il y a eu une transmission sur cette période-là qui s'est faite pour vous ici en France.
Oui, Oui, bien sûr. En fait, il y a eu plusieurs choses. En fait, bon, alors déjà, il y a cette transmission parce que j'ai eu parents très âgés, enfin, qui aujourd'hui sont très âgés. Enfin, ma mère, parce que mon père est décédé, mais qui ont en fait grandi eux dans les années 30, 40, 50, mais surtout pendant les années 30 et 40. Donc, j'ai une mémoire de ça quand je voyais les photos de cette époque, voilà. Mon père, en plus, a fait la guerre d'Espagne, s'est battu pendant la République. Enfin, bon, bref, il y a tout un passif comme ça, où il m'a jamais parlé de sa guerre en tant que héros. Il m'a toujours dit, le principal, quand on est jeune et qu'on n'a rien vécu et qu'on se retrouve dans une guerre, crois-moi, c'est de survivre. Et ça, c'est un truc déjà qui m'est ancré en moi, et c'est parce que je trouve ça très sain, et puis surtout parce que c'est grâce à ça que j'existe.
Survivre à la guerre, survivre au froid, survivre à la faim,
à tout, oui.
Ce que voilà. Spirou traverse aussi.
Mais voilà, ouais. C'est ça. Et on se rend pas compte, en fait, que notre existence, en fait, est liée à un hasard incroyable, parce que c'est pas simplement nos parents, mais toute cette génération de gènes qui se sont transmis depuis la nuit des temps. Enfin, bref. Et donc, oui, j'étais plongé, je me suis assez facilement plongé dans ces années-là parce que bon, en résumé, hein, je raconte souvent ça. Alors, c'est que mon père m'ayant dit quand j'avais 10 ans que sans Hitler, que quelque part, sans Hitler et Mussolini, je n'existais pas, parce que c'est comme parce qu'il s'est réfugié en France et c'est en France qu'il a rencontré ma mère. Donc voilà, ça m'avait troublé parce qu'à 10 ans, j'en ai fait une affaire personnelle, alors que je pense que c'est le cas pour nous tous. Hein, la plupart des gens, en fait, l'Europe a tellement été bouleversée par ces années-là que effectivement, il y a pas, à mon avis, il y a pas grand monde qui existe sans ces deux personnages. Mais à cet âge-là, on en fait une affaire personnelle. Donc en fait, depuis l'âge
avec
de 10 ans...
Avec ces mots, il avait fait entrer la grande histoire, dans votre petite histoire à vous. Quoi.
Voilà. Ouais. Et du coup, depuis l'âge de 8-10 ans, je veux savoir, en fait, tous les gens que je croise, en fait, qui ont vécu cette époque, je cherche à savoir ce qu'ils ont vécu, en cherchant sans doute des héros, des gens qui ont lutté contre ça. Et en fait, j'ai jamais trouvé de héros, j'ai jamais trouvé de collabos non plus.
Mais en fait, des gens ordinaires.
Voilà, qui vous disaient simplement ce qu'on avait, c'était faim et peur. Et j'ai pensé que c'était ça qu'il fallait raconter. Et que si on arrive à survivre à ça, et sans surtout, et en gardant ses qualités humanistes, c'était ça peut-être d'être un héros.
Émile Bravo, vous l'évoquiez, Spirou est un héros sans père, 55 albums tour à tour pensés par Robvel, Jigé, Franquin ou encore Fournier, aujourd'hui par vous. On a appris au début du mois la mort de Philippe Thom. La formule des amis de Spirou est assez belle concernant, ils disent, s'il y a un paradis pour les auteurs de Spirou, Robvel, Jigé, Franquin et Nick viennent d'accueillir un nouveau. C'est en effet lui, le belge dessinateur de bande dessinée qui avait donné naissance au petit Spirou avec le dessinateur Jean-Ry. Le signaler pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Émile Bravo de passer autour de cette grande table. Je rappelle donc que le deuxième tome de L'Espoir malgré tout, Spirou, L'Espoir malgré tout, vient de paraître chez Dupuis. Merci encore.
Merci.